Bonsoir à toutes et à tous. Démarrons l'émission Une heure en Palestine, programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur Radio Galère 88.4 et animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13, la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité et BDS Provence qui anime l'émission. Je suis avec Jean-Yves.
Oui, bonjour Bernard.
Bonjour Jean-Yves. Et je suis Bernard. Si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement, www.assopalestine13.org. Vous pouvez également consulter nos pages Facebook, Palestine 13 et BDS Provence. Vous pouvez aussi nous écrire à asso.palestine13@gmail.com et bdsprovence@orange.fr. Merci à Sidi qui va assurer la technique pendant toute cette émission. Alors, commençons par des événements, des moments d'actualité. Le 7 octobre, c'est-à-dire ça a déjà eu lieu,
c'était la semaine dernière, oui.
Ah oui, a eu lieu l'inauguration à Marseille du magasin, d'une boutique ouverte aux produits palestiniens par nos amis de Fik Souk. Et on y trouvera dans cette boutique des produits artisanaux, céramiques et verres soufflés d'Hébron. Alors je vous les recommande parce que souvent quand on les voit faire, on dirait presque encore des verres soufflés, mais version comme on les faisait dans l'Antiquité, c'est-à-dire il n'y a pas eu de transformation, c'est absolument formidable. Du bois d'olivier, des bois d'olivier de Bethléem, du savon naturel à l'huile d'olive, des produits alimentaires, huile d'olive, dattes, zaatar, sumac, les chaussures, broderies et plein d'autres choses à découvrir. Alors ce magasin se trouve 12 place Alexandre Labadier, dans le premier arrondissement à Marseille. Alors, maintenant, je vais donner la parole à Jean-Philippe, à Jean-Yves, qui va intervenir sur les faiblesses de nos politiques, y compris de nos politiques, de nos hommes et femmes politiques, y compris parmi ceux qui nous ont conquis par leur discours de gauche.
Donc, j'ai trouvé un article qui a été écrit par Jacques-Marie Bourget et qui parle de Adrien Quatennens, le successeur désigné de Jean-Luc Mélenchon, un jeune homme extrêmement brillant qui m'a séduit, j'avoue, par son discours, ses façons de parler, etc. Et en fait, Bourget dit qu'Athénès a aussi giflé la Palestine. Et donc il dit qu'il n'y a pas un, mais deux faits scandaleux commis par Adrien Quatennens. Vous avez remarqué qu'il y a un silence sur la seconde affaire. La première, c'était que le député du Nord, il a giflé sa femme. C'était il y a un an. Aujourd'hui, tout le monde est courant. Et on retrouve le deux poids, deux mesures qui est appliqué à l'Ukraine et à la Palestine. Si on se fie à l'accueil de Damien Abad à l'Assemblée, accusé de violence encore plus grave, ou à l'omniprésence de Darmanin, accusé lui aussi de violence envers les femmes et qui est toujours à son poste. Et le deuxième fait concernant Quatennens, coordinateur de la France Insoumise, c'est qu'il a signé une proposition de résolution qui doit être soumise au vote, qui devait être soumise au vote de la représentation nationale. Quelques semaines plus tard, il demande au bureau de l'Assemblée de retirer son nom de la résolution. Et il s'agissait d'un texte qui a pour objectif de proposer l'adoption d'une résolution qui condamne Israël pour sa conduite d'apartheid envers les Palestiniens. Ainsi, un jour, Adrien trouve que la politique israélienne est insoutenable, encore il a raison. Un autre jour, il en déduit qu'il n'y a pas de quoi en faire un plat. Donc, il retire sa signature. Et l'héritier désigné de Jean-Luc Mélenchon abandonne donc la Palestine en rase campagne, alors que depuis 50 ans, le soutien accordé à la Palestine marque la profondeur d'un engagement à gauche, anticolonialisme, respect du droit international, et ce marqueur, Katnès, le piétine en silence. Peut-être avait-il peur que sa signature desserve sa carrière de politicien.
Oui, mais Jean-Yves, oui. Je crois qu'on a eu l'occasion déjà d'en parler, de cette affaire. Mais oui. Surtout, ce qui s'est passé, à mes yeux, hein, quand c'est arrivé, c'est que dès que le rapporteur communiste du Parti communiste a sollicité qu'on ouvre une telle résolution, les cris d'antisémitisme se sont développés sur les bancs de la droite. Et la France insoumise, qui à mon avis n'a aucune formation sur cette question palestinienne, a reculé en ordre vraiment immédiatement en criant « Non, on n'est pas antisémites, ils se sont laissés piéger comme des petits-enfants, on leur parle d'apartheid israélien et comme un, ils ne savent pas ce que c'est. » Deux, le lendemain, Manuel Bompard, sur, je crois, BFM TV, a avoué que ce mot était pour lui déplacé. Voilà, donc...
Je comprends ton discours. Maintenant, cette résolution, elle avait été déposée par un député communiste de Seine-Maritime, Jean-Paul Lecoq. En fait, il savait ce qu'il faisait, et lui, bon, il a réfléchi, mais les autres auraient pu faire pareil. Et il persiste et il signe dans son engagement pour la Palestine. Et en fait, il ne remet pas du tout l'existence de cette proposition. Et en fait, il décide quiconque de trouver une trace d'antisémitisme en moi. En fait, ce qu'il faut qu'ils apprennent à faire, certainement, tu as raison, c'est à répondre aux accusations d'antisémitisme.
Mais bien sûr.
Et à mettre les faits sur la table.
Voilà.
Jean-Paul Lecoq se dit, mais pourquoi l'État hébreu n'est-il jamais sanctionné? Et en fait, il veut faire plus qu'agiter des pancartes et pétitions. Il veut que les députés français marquent dans leur engagement parlementaire la désapprobation de la politique d'apartheid israélienne. Voilà.
Oui.
Donc, en plus, il dit, Katnès et Panot, parce qu'elle est aussi dans le même sac,
ont signé
un texte.
Oui.
Un texte complet, documenté et équilibré, et puis ils ont veillé leur nom sans même l'appeler pour lui dire, voilà. Et en fait, c'est quand même pas une invention de Lecoq, c'est des ONG israéliennes, CLM, c'est Human Rights Watch, c'est Amnesty International, qui ont dit que Israël faisait...
Oui, je me souviens, le rapport d'Amnesty a été catégorique. Ça a mis le feu 4 ou 5 heures dans les radios en France en disant que ce que pratiquait Israël relevait de l'apartheid. Ouais. Alors maintenant, on va passer à un autre sujet d'actualité qui nous a été transmis par Frédéric Mettezo, qui est le correspondant de France Inter, France Info, enfin de Radio France à Jérusalem. Et sur une affaire croquignole, l'arrivée récente de 5 génisses rousses fait craindre un nouveau conflit autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Vous avez bien entendu. L'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam dans la vieille ville de Jérusalem, est aussi le mont du temple pour les juifs. Le saint des saints, juste au-dessus du mur des lamentations. Là se trouvent la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Mais là aussi se trouvait le deuxième temple des Juifs, détruit en 70 par les Romains. Pour les Juifs les plus religieux, il faut reconstruire un temple pour préparer le retour du Messie. Mais pour cela, il faut purifier les prêtres de ce futur troisième temple. Et comment se purifiait-on il y a 2500 ans ? On se purifiait au contact de cendres de génisses parfaitement rousses, abattues et incinérées à cet effet. Mais attention, aucun poil d'une autre couleur ne devait être apparu sur la bête. C'est même écrit dans la Torah. Or, la semaine dernière, 5 génisses rousses du Texas sont arrivées à l'aéroport de Tel Aviv, accueillies par 300 juifs messianiques. Jérusalem est le cœur du conflit. La question des lieux saints a bloqué tous les accords de paix et parfois provoqué des guerres. La reconstruction du temple impliquerait la destruction des lieux saints musulmans de l'esplanade des mosquées et provoquerait des émeutes. Ce ne serait plus un conflit entre Israéliens et Palestiniens, ce serait une guerre religieuse entre juifs et musulmans, avec le risque d'une guerre au minimum régionale. Car le messianisme juif d'extrême droite a des ramifications aux États-Unis. Ces 5 vaches ont été offertes par des chrétiens évangélistes, soutien du Parti républicain et du sionisme religieux. C'est l'alliance de la droite américaine façon Trump et de la droite israélienne façon Netanyahou, qui espèrent tous les deux revenir au pouvoir, l'américain en 2024, l'israélien dès le 1er novembre prochain. Alors là, on voit à quel point de, comment dire, pas de bigoterie, mais enfin de mysticisme stupide, on arrive.
De messianisme.
Il faut pas qu'il y ait un poil de, s'il y a un poil noir au milieu des poils roux, l'affaire est capote. Voilà, non, ça, alors. Alors, un autre fait d'actualité qui a marqué ces jours derniers et qui manque pas de sel, vous allez l'entendre. Israël rejette l'annexion par la Russie de 4 régions ukrainiennes. Israël a condamné vendredi l'annexion par la Russie de 4 régions occupé de l'Ukraine, réitérant son soutien total à la souveraineté de Kiev. Dans une déclaration publiée peu après la signature par le président russe Vladimir Poutine de traités visant à incorporer les régions partiellement occupées de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporijja dans la Fédération de Russie, le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré qu'il ne reconnaîtrait pas cette démarche. Voilà, alors là, Jean-Yves, tu as 2 mots à nous dire là-dessus.
Je me suis posé la question, je ne sais plus qui a dit, les camps, ça rose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Oui,
c'est dans un film, toi qui es cinéphile, est-ce que tu dois pouvoir nous le dire, hein?
Non, c'est le père de Jacques Audiard qui a dit ça, c'est Michel Audiard.
D'accord, voilà. Donc, voilà.
Alors maintenant, toujours.
Petite remarque, vas-y. Quand même, c'est que pour provoquer des guerres, quand même, Israël est très fort, puisque ces derniers jours, il y a eu 2 autres informations importantes à propos de la paix qui risque de ne pas venir. C'est que Israël fait tout pour bloquer les négociations sur l'énergie nucléaire en Iran, et ils sont prêts à faire la guerre, à aller jusqu'au bout. Et puis, deuxième chose, alors l'Iran qui n'a pas besoin de ça, hein, bien sûr, parce que la population qui souffre. Et puis, deuxième chose, Israël est aussi prêt à faire la guerre au Hezbollah s'il détruit les extractions, le champ d'extraction que Israël veut implanter sur des portions de mer qui sont demandées par le Liban. Et du coup, Liban, pareil, qui est un pays détruit, ou presque, ils sont prêts à aller bombarder le sud de Beyrouth et pour tout détruire, parce que c'est le siège du Hezbollah, etc. Donc voilà, les civils, les gens qui souffrent, ils n'en ont rien à voir. Voilà.
Alors maintenant, on va passer à une autre... à quelque chose d'autre, nous sommes un élément d'actualité, parce que j'ai trouvé une parution qui s'intitule « Parcours des juifs antisionistes en France », et sous le patronage de l'UJFP, l'Association des juifs...
Union juive française pour la paix.
Est idée par Sileps et les éditions de l'Échelle du Temple, donc les raisons pour lesquelles des juifs sont devenus antisionistes. Alors j'ai choisi un extrait de ce qu'a écrit Michèle Siboni, de son parcours à elle, où elle explique comment ça s'est fait que petit à petit, ben, le sionisme, enfin, lui est apparu comme quelque chose de totalement détestable.
Sa conscience antisioniste a été...
Comment ça s'est construit, oui. Alors voilà ce qu'elle dit. « J'ai mis des années à comprendre que ce qui n'était pas nommé n'existait pas. Je dois à mes nombreux amis, d'abord juifs, puis palestiniens, de Haïfa et d'Israël, d'avoir patiemment défait cet écheveau de silence et d'absence en me montrant l'invisible, en me nommant les absents. Cela ne s'est pas fait en un jour. » Pendant très longtemps, Palestine et Palestiniens ont été dans ma tête dissimulés derrière une sorte de brouillard. Leur existence, que je percevais de plus en plus, ne parvenait pas à ébranler les certitudes inculquées. Et pendant tout ce temps, même si j'avais compris qu'ils étaient là, qu'ils existaient, qu'ils avaient été chassés et que leur société avait été détruite, cela ne remettait pas en question pour moi le droit à l'autodétermination du peuple juif, leur droit à un État comme les autres. La première puis la deuxième intifada ont achevé le travail. Jusqu'en 1987, j'ai employé le féminin pour désigner Israël. À partir du début de la première intifada, il s'est masculinisé dans mon vocabulaire. Devant la violence de la répression, les bras et jambes brisés sur ordre de Rabin, devant aussi les discours insupportables de mes amis juifs de gauche, reprenant en France les slogans racistes. Ils utilisent leurs enfants qu'ils placent en première ligne. Pendant cette période, mes amis israéliens, eux, militent dans Dai Kibbutz. Ils refusent de se rendre dans les territoires occupés, sauf pour y manifester. Certains refusent les appels de réserve vers les territoires occupés, préférant effectuer leur période en prison. Nous ne visitons plus la vieille ville de Jérusalem, Hébron ou Jéricho. Nous continuons cependant à nous rendre sur les plages du Sinaï occupé. À partir de 1988, mes copines sont femmes en noir et se rendent tous les vendredis sur les carrefours d'Israël pour manifester contre l'occupation. Voilà le témoignage de Michel Siboni. Pour dire qu'un jour, ben, elle a lâché l'affaire du sionisme.
Et ce qui se passe en Israël, c'est que les Palestiniens sont bien cachés. Les Israéliens, ils n'ont pas le droit d'aller dans certaines régions de Cisjordanie. Pour aller chez eux dans les colonies, ils ont des routes qui leur évitent de rencontrer les Palestiniens, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même une propagande. En plus, quand on lit des articles de journaux pro-sioniste, dès qu'il y a un Palestinien qui a fait quoi que ce soit, c'est un terroriste. On ne dit jamais un Palestinien ou un Arabe palestinien. C'est toujours le terroriste palestinien. Il y a toujours ce qualificatif. Voilà, c'est une propagande et c'est un bourrage de crâne.
Alors maintenant, Jean-Yves, on va évoquer la situation de Salah Hamouri et évidemment des droits de l'homme en pensant à sa situation et à la détention administrative dans laquelle il est plongé depuis 3 mois, ouais. Et puis même depuis beaucoup plus longtemps, parce qu'il sort et puis on le remet en détention administrative ou en prison. Donc je te laisse la parole.
Donc Salah Hamouri, c'est un avocat franco-palestinien. Aujourd'hui, il est en détention administrative depuis le 7 mars dernier. Détention administrative, on en reparlera après, mais c'est un emprisonnement sans inculpation ni jugement. C'est l'armée qui a dit on l'emprisonne, c'est un reste de la colonisation anglaise à l'époque. Comme le souligne le comité du soutien, un nouvel ordre militaire arbitraire a été émis le 4 septembre, alors que la détention de Salah devait prendre fin le 5 septembre. Toujours sans jugement ni charge, basé sur un dossier secret auquel ni Salah ni ses avocats ont accès, sa détention administrative est prolongée de 3 mois, soit jusqu'au 4 décembre. Depuis 20 ans, Salah Hamouri est victime du harcèlement politique des autorités israéliennes. Sa vie n'est qu'une succession d'arrestations et de périodes de détention administrative qui témoignent d'un véritable harcèlement de la part de l'État d'Israël à son encontre, sans qu'à aucun moment sa culpabilité ou une potentielle menace qu'il représenterait pour la sécurité d'Israël ne soient vérifiées ou prouvées. Il travaillait au sein de l'organisation Adamer et il n'a jamais cessé de défendre la cause des prisonniers palestiniens détenus arbitrairement par l'État d'Israël et même parfois par l'autorité palestinienne, hein, qui sert en fait de supplétif à l'armée israélienne. En 88, j'étais à Ramallah quand il a été libéré. Le soir de sa libération, on l'a rencontré avec les gens avec qui j'étais. Et en fait, il nous avait expliqué qu'il ne pouvait pas rentrer en France parce que Israël lui demandait de partir en France. Il a quand même la nationalité française. Il ne pouvait pas parce que sinon, il était sûr de ne pas pouvoir revenir alors que en contrepartie, sa femme et sa fille avaient été empêchées de rentrer en Israël. Sa femme avait été retenue pendant 24 heures à l'aéroport Ben Gurion, et puis on l'avait remise dans un avion pour la France, une française. Donc voilà comment se comporte Israël vis-à-vis des prisonniers politiques.
La suite, c'est un courrier envoyé par l'association, par le bureau national de l'association France-Palestine Solidarité, à Emmanuel Macron, en lui demandant signifiant une exigence, celle de la libération de Salah Hamouri.
Le bureau national de l'FPS, donc qui annonce à Emmanuel Macron, la détention de Salah a été prolongé de 3 mois. L'FPS a dit Salah Hamouri est avocat, défenseur des prisonniers politiques palestiniens au sein de l'association Adama, l'une des 6 ONG palestiniennes attaquées par Israël. En plus, Israël a interdit 6 ONG sans aucune preuve de leur collusion avec, ils disent qu'ils sont affiliés au SPLP, qui est une entreprise selon eux terroriste, etc. Donc 700 prisonniers palestiniens sont aujourd'hui en détention administrative. Salah est l'un d'eux. Les arrestations arbitraires et le recours massif à la détention administrative sont une violation du droit international. Le 18 octobre 2021, les autorités israéliennes ont révoqué son permis de résidence à Jérusalem pour manquement à l'allégeance à l'État d'Israël. Malgré un recours contre cette décision, la Cour suprême a annoncé une décision pour février. C'est ce qu'on appelle la justice de l'occupant. Ils ont tous les droits. Et l'Élysée a annoncé que le 23 août dernier, que le président de la République s'était une nouvelle fois enquis de la situation de Salah Hamouri auprès du premier ministre israélien, Yair Lapid. Bonjour, monsieur Yair Lapid. Comment va Salah Hamouri? Donne-moi de ses nouvelles.
Oui, mais tu te rappelles.
Bien, bravo, gardez-le.
Tu te rappelles, voilà. ils avaient dit au moment où Lapid était venu que cette question serait évoquée, mais hors caméra et hors micro.
Oui, il va bien, on s'en occupe. Et puis maintenant, Macron, il est content. Alors que, vu qu'il a quand même, c'est un citoyen français, le minimum pour le président de la République, c'est quand même de s'en occuper. Et l'FPS dit le président de la République doit exiger clairement et explicitement sa libération, le rétablissement de son droit de résidence à Jérusalem, parce qu'en plus, il ne peut plus aller chez lui, hein, le droit pour sa femme et ses enfants de le rencontrer et de communiquer avec lui. Donc voilà, aujourd'hui, on en est, nos politiques sont vraiment des merdes, quoi. Aujourd'hui, c'est grossier.
Voilà. Très bien, Jean-Yves. Alors, à ce stade de l'émission, je crois qu'on va faire une petite pause musicale. Alors, tu nous dis de quoi il s'agit.
Donc, c'est 47 Soul, 47, parce que c'est la date où l'ONU, c'est l'année où l'ONU a entériné le partage de la Palestine en deux, partage qui aboutit à la situation actuelle. Et donc, ils ont fait, c'est un groupe qui a fait une chanson en hommage à Shirin Abu Akleh, journaliste d'Al Jazeera, qui a été assassiné, le mot n'est pas trop fort, par l'armée israélienne au mois de juillet, il me semble. Voilà. Donc on va écouter 47 Soul.
المسجد المكسور ما في قدامك طاغوت إلا ينحني إلا ينحني وعدي ليك شو ما صار لو سكر وراح أفوت والله الملايين أنا زيي إلا ما نيجي وحنفوت كل ما الصوت يعلي يا ابن القدس ويا بنت هالنجمة وقفت للدار والله علي النعمة تضوي وتشيل الحاجز ترى حكمه بخصوصك عاجز يلي ينده عليك الشاطئ وعليه واحلف اني منسى الدار يا حامية صار لو سكر وراح افوت والله الملايين انا زيي الا ما نيجي وحنفوت كل ما الصوت يعلي يا ابن القدس ويا بنت هالنجمه وقفت للدار والله علي النعمه تضوي وتشيل الحاجز ترى حكمه بخصوصك عاجز يلي ينده عليك شاطئ وعليه واحلف اني منسى الدار يا حامية.
Voilà, merci, et nous enchaînons avec une déclaration de la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme, d'Amnesty International et de Human Rights Watch. Les États doivent agir pour protéger les droits humains en Palestine et démanteler l'apartheid israélien. En août, les autorités israéliennes ont perquisitionné les bureaux de 7 organisations de la société civile palestinienne et ont ordonné leur fermeture dans le but de mettre un terme à leur travail et de réduire davantage les Palestiniens au silence. En réponse à cette escalade alarmante dans la répression de nos partenaires palestiniens, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, la FIDH, Amnesty International et Human Rights Watch se sont réunis en délégation dans les territoires palestiniens occupés pour exprimer leur soutien à la société civile palestinienne et lutter contre l'occupation abusive et prolongée, l'annexion, l'impunité et l'apartheid. Alors, dans la foulée, de la dernière série d'hostilités à Gaza, les autorités israéliennes ont intensifié leur assaut contre les défenseurs des droits humains et les organisations de la société civile palestinienne en Cisjordanie occupée. Hein. On dit bien que, en Cisjordanie, les Israéliens considèrent qu'ils sont chez eux. En août, les forces armées israéliennes ont effectué des descentes dans 7 importantes organisations de la société civile palestinienne, dont 6 ont été arbitrairement mises hors la loi et qualifiées de groupes terroristes, ce qu'on disait tout à l'heure. En Israël, avec Israël, dès qu'on est palestinien, si on n'est pas, on la ferme pas, on est un terroriste. Ces raids menés par les autorités israéliennes pour faire taire les groupes palestiniens visent à entraver le travail de documentation sur les droits humains, à punir ceux qui critiquent les violations des droits humains et du droit international commises par les autorités israéliennes et demandent des comptes, notamment pour l'apartheid et la persécution de millions de Palestiniens. L'apartheid et la persécution sont punissables en tant que crimes contre l'humanité et relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Le procureur de la CPI mène une enquête ouverte sur les crimes graves commis en Palestine, ce qui offre la possibilité de s'attaquer à l'impunité d'Israël qui a alimenté des violations des droits de l'homme et des crimes de droit international répétés et de très longue date. Une réaction...
Bernard, pardon. Juste une petite remarque à propos de la CPI, c'est qu'elle a ouvert une enquête il n'y a pas très longtemps sur l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie. Elle avait ouvert auparavant une enquête sur les crimes de guerre israéliens commis en Cisjordanie, et accessoirement les crimes du Hamas aussi, hein, bien sûr. Mais depuis, on entend parler de l'Ukraine, mais toujours pas de l'action de la CPI vis-à-vis d'Israël. Hein. Voilà, toujours le deux poids, deux mesures.
Oui, toujours. Alors, il y a eu une réaction à une attaque sans précédent contre la société civile en Palestine et en Israël. Dans une période de tension globale et de dégradation des droits de l'homme à travers le monde, dans laquelle Israël joue son rôle de longue date, le gouvernement israélien, sous la direction de Naftali Bennett et de Yair Lapid, ne se gêne pas pour renforcer la répression du peuple palestinien et supprimer toute tentative d'opposition, a déclaré la présidente d'honneur de la FIDH, Soula Belassem. Avant d'ajouter, si la FIDH affirme sa solidarité indéfectible avec les droits des Palestiniens à l'autodétermination, nous appelons la communauté internationale à faire preuve de la même fermeté face aux actions d'Israël qui ne peut être qualifiées que d'État voyou. Nathalie Godard, directrice de campagne d'Amnesty International en France, a déclaré « La répression de l'espace civique palestinien fait partie du système d'apartheid. Non seulement les Palestiniens sont sous occupation militaire israélienne, menée avec de multiples violations du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits humains, mais les organisations et les défenseurs des droits humains qui cherchent à aider les personnes dans le besoin sont également fermés. » Voilà, ça veut dire que là, qu'on soit dans l'action, dans l'aide, dans le soutien, c'est tout pareil. Amnesty demande à Israël d'annuler la qualification de terrorisme des 6 organisations et d'annuler les ordres militaires de fermeture des bureaux de ces organisations. Le personnel et les directeurs de ces ONG doivent être autorisés à mener leur activité de défense des droits humains, d'aide sociale et de recherche sans être harcelés. Et elle termine en disant « Salah Hamouri devrait être immédiatement libéré, à moins qu'il ne soit accusé d'un crime internationalement reconnu et la menace de son expulsion de Jérusalem devrait être levée. » Voilà, donc...
C'est... Par rapport à cette déclaration d'Israël comme quoi ces ONG sont des repères de terroristes, même les États-Unis et l'Europe donc, avaient demandé à Israël de prouver ces allégations. Et donc Israël a envoyé des documents, etc. Et en demandant à l'Europe de ne pas continuer à financer ces associations. Et donc l'Europe a dit non, mais vos preuves, elles n'en sont pas, il n'y a rien dedans, donc on continue à financer. Donc même les pays comme l'Europe qui soutiennent tout le temps Israël disent non, mais là,
oui, parce que n'importe quoi. Hein. Parce qu'au-delà des limites, il n'y a plus rien.
Ouais.
Voilà, mais bon, enfin.
Ça n'empêche pas qu'on continue à faire des affaires avec Israël et qu'on continue à. Dernièrement, il y a un conseil d'association entre Israël et l'Europe qui a été réouvert alors que les associations, les ONG demandaient qu'on ne soutienne pas l'apartheid parce que c'est un soutien évident à l'apartheid, ce genre de trucs. Voilà.
Alors maintenant, nous allons ouvrir un dossier assez récurrent depuis quelques mois, peut-être même des années, mais qui a tendance à s'amplifier, celui des assassinats de très jeunes Palestiniens par les forces d'occupation. Depuis des mois, pas un jour sans plusieurs tirs meurtriers à balles réelles de l'armée israélienne sur des Palestiniens en territoire de Cisjordanie occupé. Motif, un comportement menaçant. La plupart de ces morts sont des enfants palestiniens. Le dernier, âgé de 7 ans, poursuivi par des militaires armés, est mort dans une chute consécutive à l'engagement démesuré de l'armée israélienne. Voilà, alors Jean-Yves, tu as la main sur ce sujet.
Donc, à propos de la ville de Naplouse, donc, dans la nuit du 8 au 9 août 2022, les soldats israéliens ont mené un raid militaire de plusieurs heures dans la ville de Naplouse, et principalement dans le camp de réfugiés de Askar. Camp de réfugiés, c'est-à-dire c'est les gens qui sont partis de Palestine lors de la Nakba en 48. Et donc après ce raid nocturne, l'armée est entrée dans la vieille ville de Naplouse et a tendu une embuscade dans une maison afin d'arrêter Ibrahim Naboulsi. Et le ministère palestinien de la Santé a annoncé que 30 Palestiniens ont été blessés, dont 4 dans un état critique. Et les Palestiniens sur place signalent la présence d'un hélicoptère, de tireurs d'élite, d'agents infiltrés et de missiles même utilisés par les soldats israéliens. Selon l'AFP, l'armée d'occupation a affirmé que ces soldats avaient encerclé la maison de l'homme recherché à Naplouse et qu'il y a eu des échanges de tirs. Des heurts violents ont eu lieu avec les émeutiers qui ont lancé des pierres et des explosifs en direction des forces israéliennes. C'est l'AFP qui parle là. Forces israéliennes qui ont répliqué en ouvrant le feu. Il y a eu plusieurs blessés palestiniens et aucun blessé dans nos rangs, a précisé l'armée dans un communiqué. Du coup, de nombreuses villes de Cisjordanie occupées se soulèvent, comme Hébron et Tulkarem. L'armée israélienne est entrée peu après et a ouvert le feu sur les manifestants. Donc, trois Palestiniens tués et 40 blessés. Alors, il faut savoir que Naplouse, ça fait partie de la zone A en Cisjordanie. Zone A qui est sous la responsabilité exclusive de l'autorité palestinienne, qui ne se gêne pas pour tirer aussi sur ses compatriotes, mais bon. Et voilà, donc Israël se permet tout et n'importe quoi.
Voilà, et il se permet tout et n'importe quoi, mais si on ajoute aux forces d'occupation, qui sont les forces armées israéliennes, on se rend compte qu'ils ont des supplétifs, qui sont les colons, qui eux aussi se permettent d'attaquer à coups de pierre et de matraque des enfants qui vont à l'école. Le mardi 4 octobre, des dizaines de colons israéliens ont attaqué une école au sud-ouest de Naplouse à coups de pierre et de matraque en tirant des grenades assourdissantes et de gaz lacrymogènes. Tout cela sous la protection des soldats israéliens qui regardaient. Et eux, ils occupent. Donc là, ce n'était pas eux qui étaient au travail, c'était les colons. Le directeur de l'école et plusieurs élèves ont été blessés. Il est à noter que la région de Naplouse est depuis 2 jours la cible d'attaques répétées de la part des colons israéliens qui attaquent les Palestiniens ainsi que leurs maisons et leurs terres. Hier soir, vers 21h, les colons israéliens ont attaqué les Palestiniens, blessant 7 personnes à Awara, au sud de Naplouse. La même nuit, à l'entrée de Beïta, au sud de Naplouse, 28 Palestiniens ont été asphyxiés. Enfin, pas asphyxiés, ils ont été gazés par des gaz lacrymogènes et blessés lors d'affrontements avec des colons protégés par les soldats israéliens d'occupation. Alors ça, c'est à noter aussi que les colons interviennent sous la protection, pas simplement sous le regard, sous la protection des militaires israéliens. Le directeur du centre d'urgence du Croissant Rouge à Naplouse, Ahmed Djibril, a déclaré que les ambulanciers ont traité environ 25 blessés par asphyxie à cause des gaz lacrymogènes, et un par des balles en caoutchouc et 2 par chute. Dans ce contexte, les forces d'occupation israéliennes ont ce matin fermé tous les checkpoints entre Naplouse et les rues reliant le nord et le centre de la Cisjordanie occupée. Selon les sources, des centaines de colons se sont rassemblés ce mardi 4 octobre au matin à côté de ce fameux checkpoint de Hawara au sud de Naplouse, sous prétexte, tenez-vous bien, d'effectuer des rituels talmudiques.
Voilà, là on... Par rapport à la protection des colons par l'armée israélienne, il y avait une histoire il y a deux ou trois semaines, un homme de 55 ou 58 ans qui avait été tabassé par des colons, il lui avait cassé les deux bras, et donc l'armée est arrivée là-dessus, et elle a embarqué le Palestinien avec ses deux bras cassés, elle l'a emmené en prison, et il a été jugé, je ne sais plus, il a été condamné, voilà, quelques mois de prison, alors qu'il s'est fait tabasser, c'est tout. Voilà.
Voilà, donc à toi la suite sur cette fois maintenant l'armée israélienne d'occupation et l'assassinat de deux jeunes Palestiniens.
Bazel Bazbous, voilà. 19 ans, et Khaled Al-Dabas, 21 ans, originaire du camp de réfugiés de Al-Jalazoun, ont été tués ce matin donc par les forces d'occupation israéliennes au nord de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Et cette, entre guillemets, remarquable, l'armée détient toujours leur corps. Ça, c'est une façon de mettre la pression sur les proches. C'est on ne rend pas les corps ou on les rend très, très longtemps après, sachant que les gens, ils veulent retrouver leur mort et pouvoir les enterrer dans leur rite, hein, que ce soit chrétien ou musulman. Et l'armée a pris d'assaut la localité près du camp de réfugiés au nord de Ramallah, a tiré sur trois jeunes Palestiniens qui étaient à l'intérieur de leur véhicule. Il en a tué deux et il a blessé le troisième. Les soldats israéliens ont enlevé les corps des jeunes tués et arrêté le jeune blessé. Depuis le début de cette année, 2022, en Cisjordanie occupée, le nombre de Palestiniens tués par les forces d'occupation est de 167. Et depuis 2015, donc, il y a eu une augmentation notable des crimes et des violations de l'occupation et des colons contre les citoyens sans défense des différentes régions palestiniennes. Alors, par rapport à la façon d'opérer de l'armée aujourd'hui, il y a quelques mois de ça, le gouvernement les a autorisés à tirer, je crois que Bernard en avait parlé dans une de nos précédentes émissions, à tirer même dans le dos des enfants, qui avaient lancé des pierres. Donc pour avoir lancé des pierres, un enfant qui lance une pierre et puis qui se retourne et qui s'en va en courant, les soldats israéliens ont aujourd'hui l'autorisation de leur tirer dans le dos avec des balles, en principe en caoutchouc, mais bon, c'est quand même des armes létales dans certains cas. Et voilà, donc ça explique le nombre de morts qu'il y a aujourd'hui dans les... En Cisjordanie. C'est l'année la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis 7 ans, a indiqué Haaretz dans le journal israélien, dans un article du 14 septembre.
Voilà. Bon, voilà, on va clore sur les assassinats, mais en sachant qu'on y reviendra souvent parce que ça n'a jamais de fin. Alors, on passe à une autre affaire, c'est...
La résistance armée, on
clôture pas tout à fait là-dessus, parce que l'histoire de Ryan Suleiman, le petit de 7 ans là, pourchassé par des soldats israéliens sur le chemin de l'école, ça on en a déjà parlé, mais savoir que cet enfant de 7 ans originaire de la ville de Toukou, au sud-est de Bethléem, en Palestine, alors qu'il rentrait de son école ce jeudi 29 septembre, les forces d'occupation israéliennes l'ont pourchassé, ce qui a entraîné une course effrénée et une chute d'une telle hauteur que l'enfant est mort. Donc on peut dire que là, c'est pareil, hein, c'est une mort qui est appliquée, dont la responsabilité de l'armée est totale dans cette affaire. Le personnel médical a indiqué que toutes les tentatives de réanimation ont échoué. D'après Haaretz, l'armée israélienne enquête sur ce qu'il s'est passé. Voilà, mais on sait comment ça finit.
Oui, on sait qu'effectivement l'armée, elle soutient chaque fois ses soldats, comme lors de la mort de Shirin Abu Akleh, ils ont dit répété, mais c'est pas nous qui l'avons tué, ce sont des balles palestiniennes. Et puis ils ont reconnu, mais en catimini, que c'est, ils ont dit c'est probablement la, une balle israélienne qui l'a tué, alors que les enquêtes des journalistes montrent toutes que effectivement la balle venait du côté israélien.
Alors, voilà. Oui, je me suis un peu égaré. On termine là-dessus, puisqu'il reste encore une intervention avec le papier de Anne Corpé, qui a, elle, relevé un Palestinien qui a été tué le 25 septembre à Naplouse, dernière victime en date d'un conflit armé de basse intensité, mais de plus en plus violent dans les territoires palestiniens. Alors ça, c'est intéressant à noter aussi, c'est qu'on note d'un côté que c'est un conflit armé de basse intensité, mais qu'il est de plus en plus violent dans les territoires palestiniens. Donc ça veut dire que ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que c'est exponentiel le nombre de meurtres et d'assassinats de civils palestiniens, et d'enfants surtout, depuis le début de l'année. Donc on retombe sur les chiffres que tu as donnés. Il y a eu, alors, parallèlement, une augmentation des attaques menées par des Palestiniens au printemps dernier. 18 personnes, majoritairement des civils, ont perdu la vie dans des attentats en Israël. Pour couronner le tout, de violents affrontements ont eu lieu la semaine dernière à Naplouse, on vient d'en parler, entre Palestiniens. C'est de ça dont tu as parlé, hein. Le conflit israélo-palestinien a été évoqué la semaine dernière devant l'Assemblée générale des Nations unies, mais l'attention du monde est ailleurs, focalisée sur la guerre en Ukraine et ses conséquences. Reste-t-il néanmoins un espoir pour la paix entre Israéliens et Palestiniens ? Fini son article Anne Corpé. Et maintenant,
Donc tu voulais parler de l'apartheid aussi ? Tu reparlais de l'apartheid ?
Oui. C'est à toi maintenant, apartheid.
Allez. Ça veut bien.
Ce qu'on dit depuis des années est repris par un grand média US et par les Nations Unies. Nous nous sentons moins seuls suite à ce qu'il faut nommer un pavé dans la mare. Le New York Times et le Conseil de sécurité des Nations Unies accusent Israël d'apartheid. Voilà. À toi, Jean-Yves.
Voilà, donc c'est un article trouvé dans Europalestine. Et donc, il va sans dire que les voix juives ont plus de poids sur la question d'Israël dans le discours américain et que les voix sionistes ont encore plus de poids. Et donc, il y a quelque temps, deux anciens sionistes juifs de premier plan ont accordé de la crédibilité aux accusations d'apartheid contre Israël dans le New York Times et au Conseil de sécurité de l'ONU. Les deux déclarations ont été largement diffusées. Donc c'est un ancien négociateur israélien, Daniel Levy, qui a prononcé un discours devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, exhortant les nations puissantes à prendre conscience du fait que le rêve de partition de la Palestine en deux, est mort. Le corps de plus en plus important de l'opinion savante juridique et publique qui a désigné Israël comme perpétrant l'apartheid dans les territoires sous son contrôle gagne du terrain parmi les nations du monde entier. Donc c'est un message d'espoir. Hein. Et Peter Beinart a publié un éditorial dans le New York Times qui a pratiquement adopté la désignation d'apartheid par Human Rights Watch et Amnesty International. L'article constituait en une attaque contre des organisations juives influentes qui dénonçaient ces informations comme soi-disant antisémites. On connaît ça en France avec le CRIF qui, dès qu'on parle d'apartheid ou quoi, dit « Ah, antisémitisme, stop !» Donc on n'a plus le droit de rien dire. Et donc antisémite et posant une menace à la liberté. Beinart a déclaré que le comité juif américain et la Ligue anti-diffamation ainsi que Deborah Lipstadt, envoyée antisémitisme sous Biden, abandonner un engagement traditionnel en faveur des droits de l'homme par soutien aveugle à Israël et se mêler aux dictateurs arabes pour justifier les crimes d'Israël. Donc voilà, ces comités juifs américains, la Ligue anti-diffamation League, Deborah Lustad, etc., tous ces gens,
oui, alors...
finalement laissent tomber les droits de l'homme et soutiennent Israël à n'importe quel prix.
Oui, mais même si on note, comme le remarque ces deux interventions, celle du New York Times et de l'ONU, que la communauté, si on peut dire comme ça, hein, juive des États-Unis, si elle soutient de moins en moins le sionisme, il y a une reprise, elle est remplacée par les évangélistes, les mêmes qui soutiennent Bolsonaro. Enfin, il y a du monde, de nouveau, pour revenir sur le soutien.
Oui, mais ils ont peut-être moins d'influence, enfin, peut-être pas aux États-Unis, moins d'influence dans le reste du monde que quand c'est des juifs qui en parlent. Enfin, on peut l'espérer, hein, parce que je ne vois pas comment, même s'il y en a qui s'en privent pas, comment on peut accuser un juif d'antisémitisme, quoi. C'est, du coup, voilà, ils seront peut-être plus écoutés.
Alors maintenant, on va parler de l'Union européenne et de sa lâcheté, hein, globale à l'égard de la question, pas uniquement palestinienne, mais enfin dans tout ce qui est de cette zone. Donc jeudi 16 juin, l'Union européenne a signé un accord tripartite. Tu peux continuer, Jean-Yves ?
Ah pardon, a signé un accord tripartite d'exportation de gaz naturel liquéfié avec l'occupation israélienne et la dictature égyptienne. Alors, Israël produit du gaz et en fait, ils comptent profiter de la guerre en Ukraine pour placer leur gaz. Gaz qui vont exploiter dans la Méditerranée, sur la partie de la mer qui dépend d'eux, mais qui compte bien exploiter aussi dans ce qui appartient au Liban. Hein, on en parlait tout à l'heure avec la déclaration du Hezbollah qui a dit « vous n'avez pas intérêt parce que sinon vos exploitations, on les détruira hein. ». Alors, c'est un accord d'une durée de 3 ans, renouvelable pour 2 ans supplémentaires, qui a été signé à une réunion du Forum du gaz de la Méditerranée orientale. Et là-dedans, il y a l'autorité palestinienne, on la trouve. Les Palestiniens possèdent des ressources en gaz, hein, puisque bon, la Palestine, la Méditerranée, elle est à la bordure de la Palestine. Et il y a en particulier Gaza qui devrait pouvoir théoriquement exploiter le gaz qui se trouve dans sa zone de compétence. Donc il y a la Jordanie, l'occupation israélienne. Alors, quand on dit occupation israélienne, c'est Israël. Hein. Bon, l'article a été trouvé sur Palestine vaincra, et chaque fois qu'ils parlent d'Israël, ils disent l'occupation israélienne. Donc il y a l'Égypte, la Grèce, Chypre, l'Italie et la France. Et c'est un accord qui prévoit que le gaz sera transféré d'Israël vers l'Égypte via un gazoduc existant. Après quoi l'Égypte le liquéfiera et le réexportera en réseau, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pipeline qui relie l'occupation israélienne et l'Europe. Donc c'est le projet du gazoduc EastMed reliant Israël et la Grèce à travers Chypre et la Crète, mis en service en principe en 2027. C'est une entreprise impérialiste d'extraction de ressources et de concurrence entre grandes puissances et d'appauvrissement des masses du monde, comme le soulignait déjà le réseau international Samidoun en 2021. Donc voilà, on va exploiter des ressources qu'Israël va voler à d'autres pays. La présidente de la Commission européenne a déclaré dans un tweet « Avec cet accord Union européenne-Israël-Égypte, nous travaillerons sur la livraison stable de gaz naturel à l'UE depuis la région de la Méditerranée orientale. Cela contribuera à notre sécurité énergétique. » On est toujours, bien entendu, dans une logique de colonisation. On va exploiter les ressources d'autres pays. Alors que le peuple libanais suffoque en raison des sanctions, en particulier américaines, et de la crise économique, et que le peuple palestinien subit la spoliation de sa terre et de ce qu'elle contient, l'occupation israélienne vole ses ressources avec la complicité des pays de l'Union européenne et des régimes réactionnaires, c'est un euphémisme, arabes, qui servent de receleurs. Plus que jamais, nous devons le dénoncer et développer la campagne internationale de boycott d'Israël. Donc voilà. Et là-dessus, Israël, avec l'Union européenne, provoque une réunion du Conseil d'association, c'est-à-dire qu'on va parler de la façon de travailler ensemble, des exportations, etc. Voilà, voilà.
On va terminer, parce qu'il reste... Pas beaucoup de temps, avec un courrier envoyé à Joseph Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, les associations, les organisations de défense de droits de l'homme, pour stopper ce qui est tendance à se remettre en place, c'est un conseil d'association Union européenne et avec Israël. Cher ministre européen des Affaires étrangères, cher monsieur Joseph Borrell, les organisations de la société civile palestinienne et européenne sous-signées vous adressent cette lettre pour vous faire part de leur profonde inquiétude concernant la décision de raviver le conseil d'association Union européenne-Israël qui vise à reprendre le dialogue formel et à renforcer la coopération avec Israël et à banaliser les très problématiques accords d'Abraham. Lors de sa dernière visite dans la région, la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, a déclaré à propos d'Israël « Notre culture et nos valeurs communes ont créé un lien profond entre l'Europe et Israël, le lien le plus fort que nous partageons est notre croyance dans la démocratie et dans les valeurs communes. Nos valeurs communes ont créé un lien profond entre l'Europe et Israël. Le lien le plus fort que nous partageons est notre croyance dans la démocratie et dans les valeurs démocratiques. La politique de deux poids, deux mesures appliquée par les... Alors c'est plus la fin de citation, pardon. Hein. La politique de deux poids, deux mesures est appliquée par les Européens à l'égard d'un peuple confronté à l'occupation militaire, à l'annexion et aux crimes de guerre est évidemment insupportable pour les Palestiniens. Aujourd'hui, plus que jamais, les valeurs et principes fondateurs de liberté et de justice qui ont façonné l'ordre international ont été adoptés par l'Union européenne, doivent être appliqués et défendus partout. Au lieu de cela, le Conseil d'association continuera à présenter comme normal les pratiques autoritaires et oppressives à la place des valeurs démocratiques, des droits de l'homme et omettra les violations persistantes du droit international qui sont commises à l'encontre du peuple palestinien. Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là. Nous demandons donc instantanément à l'Union européenne de revoir sa décision de raviver le Conseil d'association, ainsi que de mettre fin à l'accord gazier récemment signé et de revoir ses programmes de coopération bilatérale afin qu'Israël soit tenu pour responsable de ces crimes qui perdurent et des violations des droits de l'homme commises contre le peuple palestinien.
Voilà, il y a la coordination nationale de l'UJFP, dont tu as parlé, l'Union juive française pour la paix, qui a également fait une déclaration. Et donc elle termine en disant « L'UJFP, de concert avec ses camarades européens et internationaux du mouvement de solidarité avec la Palestine, condamne avec la plus grande fermeté l'intensification des relations Union européenne-Israël. Plus que jamais, alors que la visibilité de la Palestine diminue dans la période de grands bouleversements géopolitiques que nous connaissons, la dépossession du peuple palestinien doit être combattue. Cela passe aujourd'hui par un appel clair au refus de toute forme de coopération avec Israël. Non, on ne s'associe pas avec un régime d'apartheid et d'épuration ethnique. »
Voilà. Donc,
une déclaration publiée le 3 octobre
voilà.
de cette année.
Donc, merci à tous et on vous dit au mois prochain sur les antennes de Radio
Allez, Bernard,
Galère.
À bientôt. Radio Galère 88.4. À bientôt.
À bientôt.
Binti Shalabi.